Alors nous avons bien avancé dans l'épître aux Corinthiens. Il nous reste encore la fin du chapitre 10. Ah, c'est bien. La fin du chapitre 10, la première épître aux Corinthiens. Donc vous pouvez chercher dans votre Bible. On va lire les versets 13 au 22. Donc, tout a commencé avec une question que posait l'Église de nos frères d'antan à Paul. Ils étaient à Corinthe. Est-ce un problème de manger de la viande provenant de sacrifices offerts à des idoles? C'était la question. Puisque les idoles, finalement, ce ne sont que des fabrications humaines. Elles n'ont pas de vie, elles n'ont pas de souffle. Mais aujourd'hui, Paul veut souligner que derrière les idoles, en fait, se cachent les démons et qu'ils ne sont absolument pas fréquentables. Donc, je vais lire de verset 13 au verset 22 dans la Bible Second 21. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des personnes intelligentes. Jugez vous-même ce que je vous dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites. Ceux qui mangent les animaux offerts en sacrifice ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que veux-je donc dire? Que la viande sacrifiée aux idoles aurait de l'importance? Ou qu'une idole serait quelque chose? Pas du tout. Mais ce que les non-juifs sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Donc le titre de ce matin, communier à la table des démons ou communier à celle de Christ. Ça donne l'occasion de parler un petit peu de ce qu'on appelle les démons. La Bible en parle très peu, alors on a peut-être certaines informations que l'on sait à leur sujet. Je ne prétends pas vous apprendre grand-chose ce matin là-dessus, mais c'est bien de savoir un petit peu de quoi on parle. Alors, quelle est leur origine? Nous savons que Dieu est le créateur de toutes choses, du ciel, de la terre, et de tout ce qu'elle contient, et il est aussi le créateur des cieux. Et donc, il est aussi le créateur de ces anges que l'on dit déchus. Initialement, toute la création de Dieu était bonne, mais visiblement, à travers les textes de Pierre, de Jude, d'Ésaïe et d'Ézéchiel, il y a quelques textes et quelques passages de la Bible qui permettent de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Donc, certains anges se sont en fait révoltés contre Dieu à un moment donné, avec Satan à leur tête. Et donc, ils sont devenus des esprits mauvais, qu'on appelle les démons. Les anges sont des créatures spirituelles, qui sont très puissantes. Et donc, on différencie la différence entre les anges et les démons en ce que Ah ben, les démons sont des anges qui se sont révoltés et qui sont été déchus. Ils ont voulu être semblables au Très-Haut, nous disent les textes. En tout cas, la perversion de Satan s'est manifestée clairement quand le serpent a séduit Ève dans le jardin. C'est le drame de la tentation et de la chute qui est indispensable pour comprendre le monde dans lequel on est, pour avoir des réponses aux questions métaphysiques. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden est une réponse capitale pour la foi chrétienne. Et je dois dire, la vision du monde chrétien est très robuste, très solide. Par les paroles du serpent, Satan a cherché à détruire la relation qu'il y avait entre nos parents et leur créateur. Et il est arrivé à ses fins. Adam et Ève ont désobéi, vous savez. Et à l'image de Satan, ils se sont révoltés contre leur bienfaiteur et leur créateur. Pourtant, l'arbre défendu était très bon. Il rappelait à nos parents qui était leur chef. Leur chef, c'était Dieu. Et ils avaient cet arbre dans lequel, auquel ils ne devaient pas manger le fruit et qu'ils les plaçaient en tant que créatures soumises au Dieu créateur. Monsieur Henri Blocher, qui est un théologien contemporain évangélique, il définit le péché de cette façon. Le péché est la perversion, le détournement, le pourrissement de quelque chose qui était initialement bon. Tout ce que Dieu a fait est bon. Et le péché, c'est le détournement de son objectif. Depuis que les hommes ne peuvent pas s'empêcher, depuis ce temps, les hommes ne peuvent pas s'empêcher de faire pourrir en quelque chose les bonnes choses que Dieu a fait pour eux, pour leur plus grand malheur. Et Satan est le chef d'orchestre, notre plus grand ennemi. Satan et les démons sont méchants, on le sait. Leur objectif est de faire pourrir la création de Dieu jusqu'à nous détruire, nous qui étions au sommet de cette création. Donc des enjeux qui ne sont pas anodins. Le monde est sous l'influence du malin, nous dit l'Écriture. Dieu a précipité et enchaîné les démons dans les ténèbres, selon les textes de Jude et de 2 Pierre, Jude 6, 2 Pierre 2, 4. Et ils restent cependant actifs, ils influencent le monde pour détourner pour leur propre compte l'adoration des hommes. C'est quelque chose qui est très fort. Le psaume 106 parle de cela pour le peuple d'Israël, le peuple élu. On a vu la semaine dernière qu'il n'était pas à l'abri de l'idolâtrie, qu'ils s'étaient fabriqués des idoles, qu'ils avaient connu toutes sortes de déviations, de perversions, quoique enfants de Dieu, du moins dans le sens le peuple de Dieu. Et donc, le psaume 106 retrace un petit peu tout ce parcours. Et au verset 34, nous lisons ceci, donc qui est relatif à leur entrée dans la terre promise en Canaan. Ils ne détruisirent pas les peuples que l'Éternel leur avait ordonné de détruire. Ils se mêlèrent avec les nations et ils apprirent leurs œuvres. Ils servirent leurs idoles, qui furent pour eux un piège. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Ils répandirent le sang innocent, le sang de leurs fils et de leurs filles, qu'ils sacrifièrent aux idoles de Canaan. Et le pays fut profané par ces meurtres. Ils se souillèrent avec leurs œuvres, ils se prostituèrent par leurs actions. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre son peuple. Il prit en horreur son héritage, il les livra entre les mains des nations, Ceux qui les haïssaient dominèrent sur eux. Leurs ennemis les opprimèrent et ils furent humiliés sous leur puissance plusieurs fois. Cependant, il les délivra. Mais ils se montrèrent rebelles dans leurs desseins. Ils devinrent malheureux par leur iniquité. Dieu vit leur détresse lorsqu'il les entendit leurs supplications. Il se souvint en leur faveur de son alliance. Il eut pitié selon sa grande bonté. Et il excita pour eux la compassion de tous ceux qui les retenaient captifs. Sauve-nous, éternel notre Dieu. Rassemble-nous du milieu des nations afin que nous célébrions ton saint nom et que nous mettions notre gloire à te louer. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Au verset, si vous lisez dans la version seconde, au verset 37, ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux idoles, a traduit M. Segond, mais c'est le seul, en fait c'est un mot différent du mot idole. Il n'a pas osé traduire par démon, et pourtant c'est bien ce que les Israélites ont fait. Ils sacrifièrent leurs fils et leurs filles aux démons. Ils répandirent le sang innocent. Le monde sous l'influence du malin, ils se sont mêlés au monde. Et voilà ce qui leur est arrivé, de commettre ces grands, ces terribles choses. Le monde entier sous la puissance du malin, nous enseigne l'apôtre Jean, 1 Jean 5, 19. Mais Jésus-Christ est plus fort que les démons, ça c'est ce qu'il faut se souvenir. La bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Écrit ce même apôtre Jean, chapitre 3, verset 8. Et il a démontré son autorité en chassant un grand nombre de démons quand il était dans son ministère terrestre. Vous avez lu les évangiles et c'est toute la première partie du ministère en Galilée est marquée par un grand nombre de personnes qui ont été délivrées de l'influence des démons. Il est celui qui a lié l'homme fort pour piller sa maison. Et il a, c'est ainsi que Jésus s'exprime. Non seulement il a lié Satan, pillé tous ses biens, mais également il a donné la possibilité même à ses enfants en son nom de, à leur tour, délivrer les personnes de l'emprise des démons. Dans le vocabulaire courant, on parle de possession de démons, mais dans la Bible, il est plutôt question d'avoir un démon. Il y a une petite nuance, je me permets de la souligner ici. Alors, quelle était cette table des démons dont il est question à Corinthe? Donc, dans le monde antique, hein, il y avait de la place pour tous les dieux et pour toutes les idoles. Le panthéon de Rome était spacieux et accueillant pour toutes les croyances. Les temples des divinités étaient construits pour recevoir du monde et ils étaient bien équipés pour préparer des repas. C'était des sortes de salles municipales, en quelque sorte. Pour les Corinthiens qui offrent des sacrifices dans le temple, non pas les chrétiens corinthiens, mais les habitants de Corinthe, ils offrent des sacrifices dans le temple et ils sont là en communion avec leur famille et leurs amis autour d'un bon repas. Si vous leur demandiez, ils leur disiez qu'ils étaient en communion avec des démons, ils vous auraient dit « Oh non, non, pas du tout. Qu'est-ce que vous allez imaginer là ?» Ce sont des dieux, ce sont nos bienfaiteurs, nos protecteurs. Ils nous accordent la prospérité, ils nous accordent la santé, ils nous accordent la joie. Ou bien ils nous laissent simplement tranquilles, ce dont on, tout ce qu'on souhaite. C'était pourtant des idoles, des inventions humaines, diriez-vous. Mais pas du tout, répondit-il. Ce sont des dieux qui répondent, qui manifestent leur approbation ou leur désapprobation. Quand on est vraiment fervent alors avec eux, ben voilà, ils se manifestent. Et c'est peut-être là que les démons interviennent. Ils prennent pour eux, ils reçoivent pour eux l'adoration. Et on a vu qu'ils étaient enchaînés, mais selon le reste de leurs possibilités de puissance et de nuisance, ben ils interviennent et ils donnent l'illusion que l'esprit de l'idole est bien vivant et bien là, alors que ce ne sont que des esprits déchus et eux-mêmes enchaînés. La viande reste de la viande, la statue reste une statue, mais le vrai Dieu est ailleurs. Il habite une lumière inaccessible. Mais il s'est approché de nous, il s'est incarné par son Fils Jésus-Christ. Le Dieu trois fois saint est radicalement différent des idoles. Quelques années après cette lettre de Paul, les chrétiens devront payer un lourd tribut de cette affirmation. Jésus-Christ est le seul. C'est le seul Seigneur. Jésus-Christ est en effet Seigneur. Il est plus fort que les démons et que leurs chefs. C'est lui, la postérité de la femme, qui écrase la tête du serpent ancien. Et Jésus-Christ nous offre sa communion. Il nous fait de la place pour nous accueillir tels que nous sommes et nous offre les biens de sa table. Il nous offre sa joie en priant son Père. Il a dit ceci: je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite, mes disciples. Jean 17, 13. Il nous partage sa paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Jean 14, 27. Il nous donne sa joie, il nous partage sa paix, sa protection. Je suis le bon berger, je connais mes brebis. Jean chapitre 10. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne. Personne ne les ravira de ma main. Et il donne sa toute suffisance. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Matthieu 11, 28. Jésus nous offre sa communion. Jésus nous offre son amour. Nous étions des rebelles, des pécheurs, des pourrisseurs des bienfaits de Dieu. Et par son corps crucifié, par son sang versé, il a obtenu notre pardon, notre régénération, notre adoption comme enfants de Dieu. Et quand nous nous approchons de la table du Seigneur, nous aurons l'occasion de le faire ensemble la semaine prochaine. Quand nous nous approchons de la table du Seigneur, nous prenons le pain et le vin en commémoration des souffrances de Jésus. On n'a pas besoin à ce moment-là d'apporter des animaux, d'apporter quelque chose, de faire un sacrifice ou quoi que ce soit d'autre, parce que le pain et le vin, c'est lui-même qui pourvoit à cela. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jésus-Christ nous offre son amour, il nous s'offre lui-même. C'est aussi le Dieu trois fois saint. Si par définition on ne peut pas mélanger les choses sacrées et les choses profanes, elles sont opposées l'une à l'autre, à combien on ne peut pas non plus mélanger les choses sacrées avec les choses réprouvées, les choses pourries. Ou bien, voulons-nous... Pardon, je vais relire les 20 et les 21. Ce que les non-juifs sacrifient, le sacrifient à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur, à la table des démons. Ou bien, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Non, bien sûr. Il y a aussi une dimension communautaire. Si nous avons quelques problèmes avec le péché, on s'abstient de prendre le repas pour ne pas contaminer la table. Jésus-Christ est aussi le Dieu jaloux. On ne peut pas mélanger la table du Seigneur et la table des démons. Mais aujourd'hui, nous sommes à Figeac, on n'est plus à Corinthe, au premier siècle. C'est quoi la table des démons aujourd'hui? Alors, on critique beaucoup notre société française, mais nous avons quand même un grand privilège, celle de bénéficier d'infrastructures neutres. Hein. On voulait louer la salle municipale, enfin, la municipalité nous prêtait la salle municipale pour faire une fête de Noël. Ben, c'est un endroit neutre, il n'y a aucune connotation, il n'y a pas sur la porte dédiée à telle ou telle divinité, non, non. Et c'est un petit peu ça pour tout. Si vous allez à l'hôpital, il n'est pas dédié à un dieu ou à un autre. Tout le monde est reçu sur un pied d'égalité. C'est pareil pour les routes, théoriquement pareil pour les écoles, quoique il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, on n'a pas de problème de communion avec les démons en général. Et nous qui sommes chrétiens encore moins, on peut se sentir à l'abri de ce problème qu'avaient les Corinthiens. En effet, notre monde rationnel ne croit pas aux démons, ni aux puissances maléfiques. Pourtant, ils frappent beaucoup à leurs portes. Les démons se cachent derrière tout ce qui est surnaturel. Horoscope, divination, invocation des morts. Les porte-malheurs ou les porte-malheurs. Peut-être des personnes proches de vous sont dans la situation de celle que je vais vous décrire. Catholiques pratiquants. Et ils vont facilement voir les guérisseurs. Pourquoi? Ils disent, je ne sais pas d'où viennent leurs dons. Mais la chose que je suis sûr, c'est qu'après je suis soulagé. Même pas besoin de se déplacer, par téléphone ça marche. Alors, oui, mais le mal dont tu souffres va revenir et tu vas avoir besoin d'aller revoir encore et encore. Et en t'adressant à eux, tu ne t'adresses pas à Jésus-Christ pour être guéri. Oui, mais je suis soulagé. Oui, mais pour combien de temps? Et à quel prix? Il y a une cohabitation qui est impossible entre Jésus-Christ et les guérisseurs, les médiums, les astrologues, tous ceux qui vantent leurs bienfaits en dehors de la croix de Christ. Notre monde rationnel ne croit pas aux démons, mais pourtant, elle utilise cette expression de revenir à ces démons. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui ont des comportements destructeurs et on ne comprend pas pourquoi, sans arrêt, ils reviennent à ça. On dit ils reviennent à leurs démons. Le monde des démons, leur intervention et leur influence n'est pas si loin que ce qu'on croit. Notre monde rationnel ne croit pas aux démons, aux puissances maléfiques, et pourtant, ils ont des idoles solidement boulonnées. Les démons se cachent aussi derrière les idoles institutionnelles. Qu'est-ce que je veux dire par une idole institutionnelle? J'en ai cité deux costauds de nos jours. Il y en a une qui s'appelle la liberté sexuelle. Idole devant laquelle notre société se plie en quatre. Les relations sexuelles le plus tôt possible, le plus tard possible, le plus souvent possible, avec toute personne possible ou presque. Et on fait des sacrifices sur son autel. On fait des avortements, on fait des enfants sans père, on encourage l'homosexualité. Ne touchez surtout pas à la liberté sexuelle au XXIe siècle. Ne parlez surtout pas d'abstinence aux adolescents. Non, 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 non. Oh là ! Qu'allez-vous faire ? C'est interdit tout ça. Et pour une jouissance éphémère, il y a derrière la mort, la souffrance, l'insatisfaction, l'infécondité, l'égoïsme, la culpabilité, toutes sortes de malheurs qui font le jeu de celui qui veut détruire l'homme, tout simplement, qui ne l'aime pas. La liberté sexuelle, une grande idole institutionnelle, une autre différente, le profit. Il n'y a pas de mal à vouloir faire fortune, au contraire, ceux qui s'en mettent plein les poches sont des héros, des gens à imiter. Et on peut plaisanter de tout, mais on ne plaisante pas de l'argent. Quel sera le meilleur placement, petit ou pour les petits et pour les grands? Il y en a pour tout le monde, des placements. Surtout, ne touchons pas au profit de la spéculation boursière. Oh là là! Impossible de toucher à ça. Et après, nous avons des injustices sociales. Nous avons des gilets jaunes, nous avons des crises, des destructions de toutes sortes et de toute nature, jusqu'à notre planète qui en subit des conséquences. C'était d'actualité ces derniers temps, avec l'histoire des gaz à effet de serre et de la société totale. Satan est le grand gagnant et l'homme le grand perdant. Le monde entier est sous l'influence de l'ennemi de l'homme. Mais Jésus-Christ est Seigneur. À la vue de toutes ces difficultés, on peut se sentir dépassé, insignifiant. Pourtant, Jésus nous a choisis. Et ce que Jésus attend de nous, c'est simplement de lui donner la première place dans nos vies. Que l'on ne se compromette pas avec notre ennemi pour un morceau de viande, aussi succulente soit-elle. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Seigneur, si nous ne savions pas que tu es au contrôle, que tous nos ennemis sont vaincus à la croix, nous pourrions avoir peur, nous inquiéter et être comme tant de monde autour de nous, être angoissés. Mais Seigneur, tu es au contrôle, tu es le vainqueur. Tu as acquis notre libération à la croix de Golgotha et c'est irréversible. Merci de nous donner le discernement pour que nous sachions où sont nos ennemis, qui sont les tiens. Seigneur, et que nous ne nous compromettons pas avec pour un avantage ou l'autre. Aide-nous à rester saints, purs comme toi. Que nous puissions briller comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Merci Seigneur, parce que tu nous protèges et tu nous gardes, tu as fait la promesse. Merci pour la communion à toi et également la communion avec les frères et sœurs. Nous ne sommes pas tout seuls et isolés. Merci Seigneur de nous garder tous unis en attendant que tu viennes. Et nous voulons prier pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore et qui sont empêtrés dans des problèmes qui les dépassent. Aide-leur, Seigneur, à voir combien ils ont besoin d'être délivrés, besoin de ton secours, pour les délivrer de ceux qui ont une emprise sur leur âme. Et Seigneur, nous te prions également pour notre monde, pour nos autorités, que tu permettes qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils recherchent la justice et la vérité. Seigneur, bénis notre Église également, fortifie les enfants, nous te prions pour eux, chaque fois qu'ils sont exposés à des choses que l'on ne maîtrise pas, que ce soit à l'école, que ce soit ailleurs, Seigneur. Nous ne pouvons pas tout maîtriser, mais nous savons que toi, tu maîtrises, et nous voulons te les confier avec affection, avec amour, tout ce que nous aimons, pour que tu les protèges de ceux qui veulent leur ruine. Seigneur, c'est toi qui as vaincu à Golgotha, c'est toi qui as la victoire. Et au nom de cette victoire, nous voulons plaider. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors j'ai prévu de terminer par un chant joyeux. Oh quel bonheur de le connaître, le 313. L'ami qui ne saurait changer.